Peut-on faire l'exposé dans une dimension historique de quelque chose qui relève du hors-temps, qui relève par définition de l'intemporel ? Depuis sa première étude sur le catéchisme spirituel de Jean-Joseph Surin, célèbre dans l'affaire de l'exorcisme du couvent des Ursulines de Loudun au XVIIe siècle, jusqu'à un essai intitulé « L'écriture de l'histoire » en 1975 chez Gallimard, en passant par celui sur le christianisme éclaté au seuil en 1975, la fable mystique, XVIe et XVIIe siècle, paraîtra en 1982. Il en sera question dans un instant avec Gilles Lapouge, la même année pour Agora. Brièvement donc, l'influence de Certeau, l'étude du refoulé des limites arbitraires de l'histoire officielle, le développement des médiacultures en France et de la micro-histoire aux États-Unis par de Certeau, mort en 1986, donc jésuite, philosophe et historien. Ici, la figure de Thérèse d'Avila évoquera l'un des nombreux aspects chrétiens de la tradition mystique, expliqué par une personnalité, à minima, convaincue d'expérience.
Agora, par Gilles Lapouge, qui reçoit aujourd'hui Michel de Certeau.
C'est d'un livre un petit peu intimidant qu'il sera question aujourd'hui. Ce livre paraît dans la célèbre Bibliothèque des Histoires, c'est-à-dire aux éditions Gallimard. Et son auteur est Michel de Certeau. Michel de Certeau qui est très connu, qui est professeur à l'Université de Californie, ça s'appelle comme ça ?
L'Université de Californie, oui.
C'est cela.
San Diego.
San Diego. Qui est historien, qui est psychanalyste, qui est philosophe, enfin j'arrête là, hein, parce qu'il y aurait peut-être trop de choses, et qui est écrivain. Et ce livre porte un titre qui s'appelle « La fable mystique », en dessous de quoi il y a un sous-titre « XVIe, XVIIe siècle ». Alors, Michel Certeau, je vais vous poser une question. De toute façon, toutes mes questions seront naïves, hein, parce que dans ce terrain, je suis complètement un ingénu, passionné, mais ingénu. Alors, ne vous moquez pas trop de moi si mes questions sont trop naïves. Mais au départ, je me demande s'il n'y a pas une sorte de paradoxe dans le titre même, c'est-à-dire « La fable mystique », et ensuite, XVIe, XVIIe siècle, donc un livre d'histoire de la mystique. Alors je sais bien que les foyers de la mystique apparaissent à certaines époques, dans certains lieux, que la mystique est gouvernée d'une certaine manière par la configuration de l'époque, par la mentalité de l'époque, par les circonstances même sociales, je suppose, ou historiques. Néanmoins, la mystique, nous la recevons tout de même comme de l'ordre de l'absolu et de l'intemporel. Et vous, vous en faites l'histoire de cet intemporel.
Si vous permettez, mes réponses seront aussi naïves.
Vous n'avez pas le droit, vous avez écrit 500 pages.
Oui, mais je commence ce livre en disant justement que je ne parle pas au titre d'une compétence. Peut-être, en effet, ce livre est-il né d'une question analogue à la vôtre, je veux dire, à quelque chose... qui se traduit dans notre langage justement par des silences, des lapsus. Il y a quelque chose qui parle et qui n'est pas nommable, qui fait trou dans notre langage qui est océanique aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire on retrouve cela à travers les âges, sous des formes très différentes. Et donc, j'ai fait comme qui plonge dans la mer. La mer est immense, mais l'endroit où on plonge est forcément localisé. Oui. Et donc, je ne suis qu'à un endroit de cette mer. C'est le mode sur lequel je suis historien. Alors, on pourrait dire que... Je pourrais dire qu'il y avait une question particulière qui se posait à cette période-là, au XVIe, XVIIe siècle. C'est que du fait du craquement des grandes institutions médiévales et du passage vers la modernité, vers les temps modernes, enfin avec le XVIIe siècle, cette expérience-là a trouvé des formes fourmillantes un peu de tous côtés, s'est mise à pulluler, comme c'est le cas cas dans certains moments de transit, et qu'en même temps, il y a eu un effort pour la constituer comme théorie. Pour en faire une sorte de...
Pratique ou théorie ?
Justement, c'est la théorie d'une pratique. Puisque l'une des caractéristiques de cette science, c'est que d'une part, son objet lui échappe constamment. Ça rejoint ce que vous disiez de l'absolu. Enfin, absolu, ça veut dire qui est délié. Enfin, qu'on ne peut tenir d'aucune façon. Et donc, la seule façon d'articuler, enfin, de formuler... cette question de l'absolu, je veux dire un désir constamment renouvelé par le fait que son objet n'est pas saisissable, s'est traduite sous la forme de pratiques, de manières de faire, de manières de parler. Et au XVIe siècle, on voit apparaître cette science, en même temps qu'on voit apparaître son nom, la mystique. La mystique auparavant est une sorte de, en fait, un adjectif et devient un substantif. Il y a une substantialité comme ça d'une nouvelle science. Et c'est un peu l'organisation de cette science étrange, enfin, disons, de cette théorie et de la pratique de l'innommable que j'ai voulu étudier, son apparition, les modes sur lesquels elle s'organise, sur la base d'un certain nombre de groupes, d'un certain nombre de questions concernant le langage, l'institution, la vie individuelle, enfin subjective, et aussi comment elle s'écroule vers la fin du XVIIe siècle, au moment où, en effet, une scientificité objective, disons, et une rationalité contrôlée, sur la base d'ailleurs dénoncée, fait peu à peu disparaître cette science. Non pas que l'expérience elle-même disparaisse, mais j'ai voulu saisir comme ça dans son moment, je dirais, d'expression théorique et aussi d'organisation institutionnelle ou enfin des institutions un peu étranges, c'est cette figure de l'absolu.
Le déploiement de cette science, donc, de la mystique, ou de cette théorie de la mystique, c'est... Bon, vous parlez surtout du XVIe et XVIIe siècle, mais vous le faites remonter beaucoup plus haut, enfin, l'apparition de cette quête.
Oui, parce que je limitais mon sujet à l'aspect, disons, occidental et chrétien de cette mystique, parce qu'il y a des traditions extraordinairement riches, brillantes, fondamentales, en Inde, en Afrique, dans l'Orient, etc. Donc, je limitais cela à la forme chrétienne de cette tradition. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ouvre ce livre par deux figures étranges, qui se réfère, je pense, à certains préalables chrétiens. Le premier, c'est que, justement, il y a une conception de l'absolu qui suppose que Dieu doit parler, qu'on doit entendre une parole. Par exemple, ça, ce n'est absolument pas grec ou romain, mais enfin, surtout pas grec, puisque pour les Grecs, en effet, il y a un silence insondable de Dieu. Et donc, on n'a pas à attendre de parole. Tandis que le christianisme a constitué quelque chose qui est le Dieu parlant. Mais où, comment l'entendre, bon. Et je prenais au départ cette figure d'une idiote. Parce que je crois aussi que l'expérience mystique est quelque chose qui est idiot dans notre vie. Singulier, non nommable. Et c'est l'histoire d'une femme perdue, comme la mendiante dans les romans de Marguerite Duras, dont le corps est hanté par quelque chose qui l'habite, qui la pousse, sans qu'elle ait de langage pour cela. Elle est ravie par une sorte d'infini au-dedans de son corps. Ce qui pose aussi d'emblée le problème d'un corps qui parle, ou de quelque chose dont on puisse dire « ça parle dans mon corps, mais qu'est-ce que c'est ? Qui parle ? Comment répondre ?» qui est essentiellement la question de la mystique. Qui est une question de parler à quelqu'un sans savoir qui c'est, d'essayer d'écouter. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui va se traduire par une critique des énoncés de savoir ou bien de l'appropriation par des savants d'une vérité pour dire non, il y a quelque chose qui lézarde constamment, qui brise, qui défait ces énoncés et qui est ce qui parle.
C'est ça. Donc, si je comprends bien, ce serait au moment où une certaine rationalité, enfin, les prémices d'une rationalité au XIIIe siècle, se met en place. En tout cas, dans l'ordre théologique, cette rationalité se met en place vers le XIIIe siècle. C'est à ce moment-là qu'il y a une apparition de l'innommable, du sauvage, de la folie, de l'idiote et... donc de cette quête mystique.
Oui, enfin je dirais c'est une nouvelle rationalité. Enfin un élément décisif qui marque le début de tous ces groupes mystiques au XIIIe siècle, c'est la professionnalisation des spécialistes du sens, les théologiens. Ça devient une profession technique qui s'isole du reste de la population. Et la mystique a toujours été ces courants mystiques ont toujours constitué des réactions violentes contre cette appropriation technicienne de questions fondamentales par des clercs. Et c'est la raison aussi pour laquelle les drapeaux, si l'on peut dire, de la mystique sont constitués par des figures de pauvres, de fous, de sauvages, de femmes, d'enfants. Qui revendique non pas exactement une réappropriation du sens, puisque justement ça n'appartient à personne, mais qui revendique une autonomie de cette question par rapport à la possessivité cléricale.
Oui, mais alors il me semble qu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle, il y a une nouvelle possessivité, non plus cléricale, mais mystique, puisque vous dites vous-même que, à cette époque-là, ça n'est plus seulement, enfin, c'est toujours la figure de l'idiot, par exemple, mais pris tout de même, saisi par un discours théorique.
Oui. Est-ce vraiment une appropriation? Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. On pourrait dire que ça serait la question. Peut-on trouver des mots pour ça? Ou bien y a-t-il une manière de pratiquer cela, ou de le pratiquer ensemble, ou de le chercher plutôt ensemble? D'où toute une série de conditions, par exemple des regroupements. Il faut s'isoler pour pouvoir parler ensemble.
Et époque-là, alors, il y a l'apparition de nombreux monastères, retraites, des petites églises, des petits groupes.
Oui, des tas de petites sectes. On appelait ça à l'époque des ecclésioles. Des petites églises.
Mais c'était très proliférant parce que le monastère, ça date quand même de beaucoup plus.
Ah oui, tout à fait, il y avait des grandes institutions. Oui. Mais on voit en effet apparaître ce phénomène aussi dans ces grandes institutions religieuses, mais sous l'indice d'une réforme. Il faut changer cette stabilisation ministérielle ou administrative, enfin cette gestion de la vérité, et donc y introduire le trouble. Et l'absolu aussi d'une question sans réponse.
Oui, Michel Sarto, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a, en tout cas au moins une autre époque à ma connaissance, mais il doit y en avoir bien d'autres, où on assiste à un phénomène sûrement différent, mais qui a quelques points de comparaison, c'est l'immédiate après Jésus-Christ, c'est-à-dire la prolifération dans les déserts d'Égypte et de Syrie en particulier, de ces ermites fous, véritablement fous, les hommes ivres de Dieu, enfin, et des petites cellules et des petits groupes. Et là, vraiment, il me semble que c'était un foisonnement aussi considérable que celui dont vous parlez au XVIe et XVIIe siècle.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, y avait déjà la même question, mais c'est la raison pour laquelle je commence précisément avec cette idiote qui est une égyptienne dans un monastère de femmes. C'était des républiques de femmes. Il y avait 400 femmes comme ça dans une communauté. C'était une sorte de société féminine. Et cette idiote est toujours à la cuisine. Elle fait la vaisselle. Elle a un torchon sur la tête. Elle n'a pas droit au costume du reste de la communauté. Elle vit comme ça. Comme la mendiante de Marguerite Duras, une sorte de solitude avec ce qui la hante et lui suffit. Mais c'est vrai qu'il y a une multiplication de ces expériences, en effet, dans les déserts égyptiens ou en Asie mineure. Peu à peu, d'ailleurs, ces fous sont montés vers le nord. On trouve ces fous
en Irlande.
En Irlande, mais aussi, par exemple, à Moscou, en Russie, les rues de Moscou, à certaines périodes, à la fin entre le 8e, 9e, 10e siècle, étaient pleines de fous. Et c'est pour ça que j'étudie aussi la position introductoire, si l'on veut, de ces rieurs. Les fous étaient perdus dans la foule, donc n'étaient autorisés par aucune place qui ait du sens, aucune légitimité. Ils riaient. Et je pense qu'il y a un rapport entre le désir d'un absolu et le rire. Parce que le rire est quelque chose qui s'introduit dans une institution comme ce qui la conteste fondamentalement, sans être non plus une révolution.
Oui. Bien sûr. Alors vous notez aussi, toujours du point de vue historique, mais vous en tirez des conséquences, que la mystique se développe et décline, et que dans le même temps, on a l'érotique qui apparaît.
Oui. On pourrait dire que l'érotique commence lorsque un désir cherche un objet insaisissable. Et
c'était Dieu normalement, cet objet insaisissable.
Oui, mais justement, c'est quelque chose qui est très important à la fin du Moyen-Âge, c'est que les sécurités qu'on pouvait avoir en ce qui concernait l'organisation du cosmos par Dieu et le fait que Dieu, de toute façon, parlait dans le monde, disparaissent lentement. Et donc, ce locuteur assuré devient incertain.
Tant mieux, ça.
Oui, c'est tant mieux. D'ailleurs, on accusait à juste titre ces mystiques d'être athées. Et très fréquemment, dans l'expérience de ces mystiques, il y a une contestation fondamentale en ce qui concerne l'existence de Dieu.
Oui, et la claricature fronce le sourcil dans ces cas-là ?
Plutôt, oui, parce que c'est pas tellement bien vu. Maintenant, y avait aussi chez ces mystiques quelque chose qui était irrécusable par l'institution. Donc on voit se produire des jeux subtils de tactiques, de compromis, ou bien au contraire d'opposition violente entre ces groupes mystiques et les institutions magistérielles. Alors on peut en prendre deux cas, j'analyse deux cas par exemple. L'un réussi, si l'on veut, c'est Thérèse d'Avila, maîtresse femme, une sorte d'Amazone de la mystique, extraordinairement fine, maligne, et qui menait un peu les théologiens par le bout du nez, mais en même temps prenait toute une série de précautions, enfin finalement a établi, non sans beaucoup de difficultés, puisqu'elle était accusée par l'Inquisition, ses ouvrages ont failli être censurés, menacés, mais enfin bon, il y a eu une sorte d'équilibre réussi. Tandis que je finis ce livre avec deux figures. L'une, c'est des mystiques, enfin des jeunes mystiques, une sorte de hippies mystiques, qui sont apparus dans le sud de la France, chez les jésuites, qui n'étaient pas tellement prêts à accepter cela et qui, peu à peu, ont été éliminés. Ou bien cette figure d'un itinérant étrange qui a commencé, qui s'appelle Labadie, qui a commencé comme jésuite, qui a été ensuite janséniste, puis calviniste, puis millénariste. En remontant lentement toute l'Europe, il avait commencé au sud de Bordeaux et il meurt à Copenhague, enfin, au nord dans le Danemark, en devenant labadiste et en délirant, justement parce qu'il n'y a aucun lieu où sa question puisse se loger, puisse s'articuler. Donc ça, c'est un échec.
Oui. Il me semble que nous avons perdu l'érotique en route quand même. Là.
Oui.
Nous étions partis sur l'érotique et puis ça a bifurqué. Mais, une dernière question sur l'érotique, puisqu'il y a cette coïncidence enfin, de l'apparition et du déclin de la mystique et en même temps de l'apparition de l'érotique. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y avait une espèce de voie secondaire et que la femme, au fond, puisque l'érotique, c'est la recherche, le désir infini et éternellement déçu au fond de la femme, est-ce que le corps de la femme ou la parole de la femme aurait pris la place de la parole de Dieu à ce moment-là ?
À certains égards, oui.
Vous direz, est-ce que Don Juan, par exemple, vous paraît être une expérience mystique ?
Je fais justement un parallèle avec Don Juan, mais je dirais c'est un peu la même question, mais à un autre niveau. Parce qu'en effet, c'est la recherche de la femme avec un F. Et finalement, pour Don Juan, il n'y a qu'une solution, c'est la rencontre de la mort. Chez ces mystiques, il y a quelque chose d'analogue. Et d'ailleurs, une des caractéristiques, c'est le fait que ce sont des femmes, finalement, qui sont écrivains ou mystiques majoritairement. Et que la mystique est une littérature, enfin, si on la prend comme une œuvre, où, presque pour la première fois, enfin, dans un champ théorique, la différence sexuelle a valeur fondamentale. Mmh. Et d'une certaine façon aussi, le corps féminin est devenu pour des hommes ou des clercs l'équivalent de la Bible. C'était le corps parlant à la place du livre parlant. Maintenant, on ne peut pas pousser la comparaison. Enfin, ça rejoindrait un certain nombre de questions qu'on se pose dans le champ psychanalytique, à savoir qu'est-ce que c'est que la relation sexuelle. Ça n'est pas véritablement sexuel, même s'il y a une fondation de la différence sexuelle dans cette littérature. Je veux dire que c'est plus une érotique, c'est-à-dire une recherche d'un autre insaisissable. Et c'est le début aussi d'une littérature amoureuse.
Du reste, la littérature courtoise et oui. troubadour, c'est carrément la recherche de l'insaisissable.
Oui, c'est ça. Et parce que la femme est posée comme inaccessible d'emblée. Mais là, ce n'est pas une recherche de la femme à proprement parler. C'est une recherche de quelque chose qu'on ne sait pas nommer, qui d'ailleurs est tantôt féminin, tantôt masculin, à savoir Dieu, puisque Dieu apparaît avec des figures féminines, tout autant qu'avec des figures masculines. Donc il y a une sorte d'instabilité des sexes en ce qui concerne l'objet poursuivi. Et je pense que c'est une des caractéristiques de cette littérature, que d'avoir pour centre une poétique, un chant d'amour, un chant qui ne cesse de constituer l'expérience, de l'organiser, de la stimuler, et qui était au centre de toute la littérature théorique.
Vous avez tout à l'heure fait allusion à la psychanalyse, vous avez travaillé longtemps avec le docteur Lacan, 15 ans, non ?
Oui, c'est ça, enfin, depuis la fondation de l'école freudienne en 1963.
Bon, et effectivement, là, il y a un discours psychanalytique aussi, ou sur la psychanalyse plutôt, et sans dire du tout que vous assimilez la mystique à la psychanalyse, vous dessinez tout de même quelques passerelles entre une technique et l'autre technique, une science
oui,
et l'autre science.
Sûrement. Enfin, on pourrait dire que le point de base, enfin, le point commun, en tout cas comparable de base, c'est que, à la place d'énoncer de vérité ou de savoir, c'est-à-dire un objet, vrai ou faux, à la place de cela, la question qui devient essentielle, c'est la parole. Peut-on se parler ? C'est-à-dire une question qui concerne des sujets qui cherchent à se parler, ou la parole qui fonde une relation entre des sujets. Ça, c'est la question centrale chez ces mystiques. Et d'ailleurs, ceux qui parlent, on l'appelait esprit. C'était la définition donnée à esprit. Et elle est aussi centrale dans la psychanalyse. C'est-à-dire le remplacement d'un traitement de la maladie comme objet par une interlocution étrange d'ailleurs, tout comme la prière, entre l'analyste, le psychanalyste, et
qui
ne parle pas plus que Dieu.
Et l'analysant qui ne sait pas ce qu'il dit.
Qui ne sait pas exactement à qui il parle ou ce qui parle en lui.
Oui, c'est ça.
Je dirais qu'au fond, c'est une situation de prière. Et d'ailleurs, pour Lacan, il y avait beaucoup de relations enfin, entre cette position de la prière, qui n'a jamais d'interlocuteur sûr, l'interlocuteur n'est qu'une sorte d'absolu, et puis d'autre part l'expérience d'un analysé ou analysant, enfin d'un client ou d'une cliente qui en effet parle, mais ne sait pas, et l'analyste non plus, qui parle ou ce qui parle en lui ou en elle.
Oui, une dernière question. Vous expliquez que ce discours, ou cette science, ou cette méthode, je ne sais pas, mystique, se défait lorsqu'apparaissent les Lumières, enfin au XVIIIe siècle. Tout de même, enfin, le besoin, le désir demeure. Je veux dire, aujourd'hui, dans la société où nous sommes, est-ce que vous avez l'impression que ce désir demeure et qu'il prend, enfin qu'il se tapit, qu'il se coule dans des formes presque indicibles parfois, mais des formes qui sont présentes. Moi, je pense, vous parlez de la prolifération au XVIe siècle de ces petits couvents, de ces sectes. Aujourd'hui, on a l'impression vraiment à l'état tout à fait sauvage alors et disséminé, mais il y a aussi cette prolifération.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Ça rejoint notre début, qu'en effet, je me suis logé dans un tout petit coin de cet océan. Mais cette expérience se poursuit, elle fourmille, elle pullule, je dirais aussi dans la vie quotidienne. Un lapsus, une hésitation, un silence, qu'est-ce qui parle là en moi ? Mais je pense aujourd'hui qu'elle a pris une forme de plus en plus littéraire. Pour prendre une œuvre gigantesque aujourd'hui, cette question mystique, c'est la question qu'on retrouve chez Beckett. Peut-on parler ? qui parle. Cette manière de défaire le langage, d'interroger, de transformer le langage pour y marquer cette blessure de l'interlocution, enfin de la parole impossible.
Bien, Michel Certeau, je vous remercie. Je voudrais simplement lire un petit passage tout à fait à la fin de votre livre, parce que vous dites « est mystique celui ou celle », et on va voir que ce n'est pas commode de savoir qui est mystique. « Est mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher, et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n'est pas ça, qu'on ne peut résider ici, ne se contenter de cela. Le désir crée un excès, il excède, passe et perd les lieux. Il fait aller plus loin, ailleurs, il n'habite nulle part. » C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que la manie du voyage aujourd'hui serait aussi une sorte de retombée de la même quête.
Oui, peut-être aussi c'est ce qui rend dérisoire un livre sur ce sujet.
Bien, je vous remercie Michel de Certeau. Je rappelle le titre de ce livre, La fable mystique, 16e-17e siècle. Ce livre a été publié dans la Bibliothèque des Histoires aux éditions Gallimard.
C'était Agora, Gilles Lapouge recevait Michel de Certeau pour son livre « La fable mystique », une émission diffusée la première fois le 9 juillet 1982.